franceinter.fr.
Bonsoir à tous. Explosion et coup de feu ce matin à Ouagadougou. L'état-major des armées et l'ambassade de France attaqués dans la capitale du Burkina Faso. Il y a une trentaine de morts, 80 blessés. Nous sommes sur place dès le début du journal. Donald Trump lance le bras de fer de l'acier, des droits de douane de 25%, 10% sur l'aluminium. Unilatéral et inacceptable pour le ministre Bruno Le Maire, vous l'entendrez. Au sommaire également ce soir, 4 morts dans une avalanche dans le Mercantour. Les skieurs étaient hors piste à Entraune. Muriel Pénicaud précise la réforme de l'assurance chômage, notamment pour les démissionnaires qui se reconvertissent. Les Césars, un ruban blanc contre les violences faites aux femmes et 120 battements par minute, nous dira Eva Bétan. Et puis le temps du week-end, averse, pluie et neige. La capitale du Burkina Faso a donc été attaquée ce matin. Ce sont l'état-major des armées burkinabé et l'ambassade de France qui étaient visés. Une attaque terroriste, selon l'ambassadeur de France pour le Sahel, qui précise qu'il n'y a pas de victimes françaises, mais une trentaine de morts, dont les assaillants, et plus de 80 blessés. Sur place à Ouagadougou pour Inter, Fanny Noireau-Cabré.
La situation semble maîtrisée sur les deux sites séparés de moins de 2 kilomètres. Des ratissages se poursuivent. La stupeur de ce matin a laissé place aux questions. Que s'est-il passé? Qui sont les auteurs? Et surtout, comment ont-ils pu pénétrer à l'intérieur de l'état-major, un bâtiment ultra protégé et dont la sécurité avait été renforcée il y a une dizaine de jours à peine? Y avait-il une menace particulière? Des questions auxquelles le gouvernement devra répondre. Un gouvernement déjà fortement pointé du doigt sur sa mauvaise gestion de l'instabilité. Stabilité sécuritaire subie par le Burkina Faso depuis plusieurs mois. C'est la troisième attaque que vit Ouagadougou en l'espace de 2 ans. Difficile à comprendre pour de nombreux Burkinabés encore sous le choc. Les rues du centre-ville sont toujours désertes et des barrages de police et de gendarmerie présents un peu partout. Signe que l'atmosphère est encore pesante en ce vendredi soir. À Ouagadougou, Fanny Noireau-Cabré, France Inter.
Le parquet de Paris ouvre une enquête pour tentative d'assassinat terroriste. Et Fanny le disait, plusieurs attentats ont visé des Occidentaux au Burkina ces dernières années. 19 morts dans un restaurant du centre de la capitale en août dernier, 30 tués dans un raid contre un hôtel et un restaurant en janvier 2016, toujours dans le centre de Ouagadougou. Autre combat, celui engagé en matière commerciale par Donald Trump, le président américain, qui pourrait mettre en place dès la semaine prochaine des droits de douane de 25% sur les importations d'acier, de 10% sur l'alu. L'indignation est générale de Montréal à Pékin. L'OMC se dit clairement préoccupé, comme le Kremlin. L'Union européenne menace de prendre des mesures de rétorsion. La Chine appelle Washington à respecter les règles du commerce multilatéral. Fermeté aussi du ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, au micro de Raphaël Ebenstein.
Ces mesures unilatérales ne sont pas acceptables. Elles auraient un impact majeur sur l'économie européenne et sur des entreprises françaises comme Vallourec, Arcelor ou Usitech. Une guerre commerciale entre l'Europe et les États-Unis ne fera que des perdants. Les États-Unis doivent savoir que si ces décisions unilatérales sont confirmées, elles appelleront une réponse forte, coordonnée et unie de l'Union européenne. Toutes les options sont sur la table. Un recours devant l'Organisation mondiale du commerce ou des contre-mesures pour limiter les importations américaines en Europe.
Réponse du président américain dans son tweet matinal, les guerres commerciales sont bonnes et faciles à gagner. Son secrétaire d'État au commerce confirme que les droits de douane devraient s'appliquer à tous les pays. Wall Street a ouvert en baisse de près de 1% tout à l'heure à New York. Inquiétude aussi de l'Allemagne et des États-Unis après le discours d'hier de Vladimir Poutine. Le président russe qui met en avant les nouvelles armes invincibles de son pays, on en parlait hier soir ici même. La chancelière allemande et le président américain s'inquiètent des conséquences de tels propos sur les efforts de contrôle international des systèmes d'armement. Poutine réfute, lui, toute nouvelle course aux armements avec les États-Unis. Comment voit-elle la future relation commerciale entre son pays et l'Union européenne? Theresa May présentait sa vision lors d'un discours cet après-midi à Londres. Discours dont le négociateur, d'ailleurs, Michel Barnier, salue la clarté. Alors que dit la première ministre britannique, Antoine Gignot, à Londres?
Theresa May le dit très clairement, le Brexit passe par une négociation. Personne n'obtiendra donc exactement ce qu'il souhaite. Mais dans le même temps, la Première ministre refuse de revoir ses ambitions à la baisse. Pas question de s'appuyer sur les anciens accords commerciaux signés par Bruxelles avec le Canada ou avec la Norvège. Elle veut mettre en place un partenariat original, secteur par secteur, en commençant par la finance. Le passeport financier va disparaître. Les banques ne pourront plus exporter leurs services dans les différents pays de l'Union. Il faut donc un nouveau système. La Première ministre fait ensuite la liste de ses priorités, l'aéronautique, l'aérospatiale, la construction automobile, Euratom et le marché de l'énergie. Dans ces domaines, le Royaume-Uni resterait aligné sur les réglementations européennes et pourrait accepter pour un temps limité la compétence de la Cour de justice. Toujours pas de proposition en revanche pour l'Irlande. La Première ministre continue de dire qu'elle ne veut aucune frontière, ni terrestre, ni maritime. Londres, Antoine Gignot, France Inter.
En Italie, dernières heures de campagne ce soir avant les législatives de dimanche. Les chefs de parti se suivent sur les plateaux de radio et de télévision et en meeting, notamment ceux de la coalition de droite emmenée par Silvio Berlusconi, 81 ans en tête dans les derniers sondages publiés il y a deux semaines. Cette coalition, le leader de la Ligue du Nord, Matteo Salvini, est ainsi dans son fief à Milan. Vous aussi, bonsoir Olivier Poujade.
Bonsoir Sébastien.
Dernier discours du leader du parti d'extrême droite italien qui ressemble beaucoup à notre Front National.
Oui, d'ailleurs, la Lega de Matteo Salvini et le parti de Marine Le Pen appartiennent au même groupe au Parlement européen. Et c'est une des grandes différences avec la France, c'est que Salvini incarne, disons, une extrême droite fréquentable ici. Sa préférence donnée, comme il le dit, à la race blanche, son projet de reconduire aux frontières les 600 000 réfugiés présents en Italie, de fermer ses frontières des Alpes à la Sicile. Mais tout cela fait partie du programme de Matteo Salvini et par extension à celui de la coalition à laquelle appartient également Forza Italia, la formation de Silvio Berlusconi. Berlusconi qui a d'ailleurs toujours ouvert les portes des deux gouvernements qu'il a dirigés depuis 2001 à la Lega de Matteo Salvini. La Lega, c'est un parti qui s'est imposé ces dernières années dans le paysage politique italien. Matteo Salvini a contribué à lui donner des ambitions nationales et ce sera d'ailleurs son grand défi pour cette élection, élargir sa popularité au sud, région où la Lega n'a commencé en fait à présenter des candidats qu'en 2014. Salvini rêve aussi en secret avant ce vote de dimanche. Et bien de devancer Berlusconi au sein même de la coalition de centre-droit pour s'imposer comme le vrai patron de la droite italienne.
Olivier Poujade en direct de Milan avec Raymond Alboui, merci à tous les deux. L'antisystème mouvement 5 étoiles devrait être le premier parti du pays dimanche soir. Le parti démocrate, lui, du président du conseil Paolo Gentiloni, est donné troisième. Une nouvelle preuve de vie de l'otage française Sophie Petronin, l'humanitaire enlevée le soir de Noël 2016 à Gao, dans le nord du Mali. Elle apparaît très affaiblie dans une vidéo diffusée par la principale coalition djihadiste du pays. Sophie Petronin est allongée avec la voix d'Emmanuel Macron qui répète en fond « Je vous protégerai ». Le Quai d'Orsay se contente de dire qu'il est mobilisé pour sa libération.
France Inter, le journal de 19h. Sébastien Paour.
Il a beaucoup neigé depuis le début de la semaine sur les Alpes-Maritimes et en particulier dans l'arrière-pays niçois. Une avalanche a fait 4 morts ce matin à Entraune dans le parc national du Mercantour. Des skieurs de randonnée qui évoluaient hors du domaine avec leur guide qui est sain et sauf. Sur place, Justine Leclerc.
La cellule de crise est levée à l'entrée du petit village d'Entraune au fin fond des Alpes-Maritimes. Les deux hélicoptères de la gendarmerie et de la sécurité civile terminent leur rotation pour aller récupérer les 4 corps ensevelis ce matin dans le secteur du Val d'Estaing. Un groupe de 5 personnes encadrées par un guide de haute montagne originaire des Hautes-Alpes sont partis en ski de randonnée. Une avalanche s'est déclenchée dans la matinée. En fin de matinée, 4 personnes ont donc été emportées. 2 hommes et 2 femmes. On ignore leur âge pour l'instant et leur lieu de domicile. Ils ne seraient pas originaires des Alpes-Maritimes. Le guide a réussi à échapper à la coulée de neige et a pu prévenir les secours. Choqué, il est avec les médecins. Un autre skieur est également rescapé et pris en charge par les secours. Le procureur de la République de Nice a ouvert une enquête pour homicide involontaire. L'enquête qui doit porter notamment sur le choix de l'itinéraire du ski de randonnée. Après les récentes chutes de neige dans les Alpes-Maritimes, le risque d'avalanche est de 4 sur 5. En Haute-Rhône, Justine Leclerc, France Bleu Azur pour France Inter.
La justice ordonne un procès pour le scandale de la viande de cheval vendue pour du bœuf 5 ans après les révélations. 2 anciens dirigeants de l'entreprise Spanghero et 2 négociants néerlandais sont renvoyés devant le tribunal, principalement pour tromperie et escroquerie en bande organisée. La justice encore avec cette décision du Conseil constitutionnel qui demande que les peines soient désormais motivées par les jurés en cour d'assises, là où les crimes sont jugés. Bonsoir Jean-Philippe Degnaud.
Bonsoir Sébastien.
C'est la fin de l'intime conviction. condamnation.
Ah oui, c'est en tout cas ce qui risque de se produire. À la fin d'un procès, quand la cour d'assises se retire pour délibérer, les jurés, les trois magistrats qui la composent, échangent leurs impressions, d'abord sur la culpabilité de l'accusé, puis, s'il n'est pas acquitté, sur la peine. Et ils votent à chaque fois par bulletin secret. Une première loi en 2011 a déjà introduit la motivation du verdict, et aujourd'hui, cette obligation de motiver aussi la peine va progressivement pousser le juré à devoir argumenter tous ses choix et à rendre des verdicts certainement plus raisonnables, quitte à ce qu'ils s'éloignent d'une intime conviction pour se rapprocher d'une conviction rationnelle. Les avocats y voient bien sûr une très grande avancée des droits de la défense, puisque dans cette logique, les cours d'assises seront peut-être plus vigilantes à la notion de doute raisonnable. Et la question essentielle d'un procès, avons-nous suffisamment d'éléments à charge pour condamner, sera certainement mieux prise en considération. Cette motivation du verdict et de la peine existe dans de nombreux pays d'Europe. C'est d'ailleurs une exigence de la Cour européenne des droits de l'homme à laquelle la France se conforme enfin. Si le Conseil constitutionnel laisse au législateur un an pour changer la loi, elle demande aux cours d'assises de la mettre en application dès maintenant.
Jean-Philippe Deniaud, l'âge de consentement sexuel devrait être fixé à 15 ans. Le gouvernement devrait retenir le seuil le plus élevé dans le projet de loi qui sera présenté à la fin du mois en Conseil des ministres. Pas de surprise, pour ne pas faire de vagues, Muriel Pénicaud précise la réforme de l'assurance chômage et elle reprend les préconisations des syndicats sur la question des contrats courts et le principe de nouveaux droits pour les démissionnaires. 30 000 salariés seraient concernés. La ministre du Travail au micro de Laurent Kramer.
Je pense que pour l'assurance chômage, on crée des nouveaux droits qui sont tout à fait inédits. On veut que chacun puisse, beaucoup plus qu'hier, choisir sa vie professionnelle. On reconnaît l'idée, c'est un vrai projet de société, qu'on peut avoir un projet professionnel, créer son entreprise, changer de métier, et que pour ça, il faut avoir un filet de sécurité. Et donc, on ouvre un droit pour des personnes qui auraient 5 ans d'expérience et qui voudraient changer vraiment de voie, qui ont un projet et qui pourront du coup bénéficier du chômage pour avoir le temps de préparer leur projet et de choisir leur voie. Et le deuxième droit, c'est pour les indépendants. Ce sont des agriculteurs, des artisans, des commerçants, des micro-entrepreneurs qui aujourd'hui, s'ils ont un échec ou un accident de parcours, se retrouvent vraiment sans rien. Et donc là, l'idée, c'est d'ouvrir un droit qui va être de 800 euros pendant 6 mois, le temps de se retourner, le temps de pouvoir rebondir, parce que, encore une fois, aujourd'hui, non seulement il y a la liquidation judiciaire, mais du coup, ils se retrouvent absolument sans rien, et ce qui est une situation parfois dramatique pour eux et pour leur famille.
Le ministre de l'économie recevait, lui, les différents acteurs concernés par le site de Ford à Blanquefort, en Gironde, dans lequel le groupe automobile américain a décidé de ne plus investir, ce qui menace 910 emplois. Pour maintenir l'activité sur le site, Maxime Deps, Bruno Le Maire met en place un groupe de travail restreint.
Premier à sortir de la réunion, Alain Juppé, élu concerné. Blanquefort, c'est son terrain. Le président de Bordeaux Métropole ne peut que déplorer la volonté de Ford de se désengager.
Nous avons des interlocuteurs qui ne jouent pas véritablement le jeu. Et donc, nous avons besoin pour cela du soutien de l'État pour obtenir des engagements précis.
L'État qui, vous l'avez dit, va s'emparer du dossier. Il y a une semaine, Ford a fait connaître sa volonté de ne plus mettre le moindre sou. Pourquoi, comment Bruno Le Maire compte bien accompagner le président de la République à Washington en avril pour demander des comptes au patron monde de la marque. Déjà de quoi se dire qu'on n'est plus seul, se rassure à moitié Jean-Michel Caille de la CFE-CGC.
Vu la détermination de M. Bruno Le Maire, je pense qu'on a moyen maintenant de faire voir à Ford que Laurent Tourloup n'en veut pas. Moi, j'ai quand même 39 ans de Ford. C'est des choses qui font mal et qu'on ne peut pas admettre.
Surtout, ce que ce syndicaliste n'accepte pas, c'est la méthode. Ford touche des aides publiques depuis 5 ans, aides qui ne seront plus versées l'an prochain, ce qui n'excuse rien pour le président de la région Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset.
Il y a la volonté des politiques de se rapprocher du monde de l'entreprise, mais le monde de l'entreprise doit respecter aussi ses engagements et sa parole. C'est un vrai problème. Dans quel monde vit-on ?
Dans quel monde vit-on ? C'est aussi la question que se posent les syndicats qui n'excluent rien, ni grève, ni manifestation.
Gilbert Collard a son avis sur le possible futur nom du Front National. Le député du Gard souhaite que le parti d'extrême droite se rebaptise les Nationaux. La patronne Marine Le Pen doit proposer un nouveau nom au Congrès dans 10 jours qui sera soumis ensuite au vote des militants. Deux diamantaires indiens agressés au début de la semaine dans le métro à Paris. Ils revenaient d'un rendez-vous professionnel quand deux hommes les ont attaqués. Ils sont partis avec un sac qui contenait 300 000 euros de pierres précieuses. Vanessa Paradis, en maîtresse de cérémonie, une soirée dédiée à Jeanne Moreau, morte l'été dernier, un hommage à Pénélope Cruz, et un ruban blanc sur les tenues de soirée contre les violences sexistes et sexuelles. Les femmes seront à l'honneur ce soir au César, salle Pleyel à Paris. Côté récompense, bonsoir Eva Bétan.
Bonsoir.
Deux films sont favoris avec 13 nominations, mais il n'y a pas que ça cette année.
Oui, on est vraiment dans une année particulière. La question classique, c'est qui va recevoir quoi? C'est normal, c'est à ça que servent les Césars. Mais aussi, qui va dire quoi? Les choses se sont accélérées ces derniers jours. Dans le côté post-affaire Weinstein, il y a eu deux tribunes qui ont été publiées. L'une sur les violences faites aux femmes, avec l'idée d'un mouvement qui recueille des dons pour aider les personnes victimes de violences.
Maintenant, on agit.
Qui a signé ça? Notamment Vanessa Paradis, qui est maîtresse de cérémonie. Si elle veut s'exprimer, elle a toute latitude. Mais aussi Emmanuelle De Vos, qui est nommée comme meilleure actrice. Alors quand on est nommé, encore faut-il avoir le micro, et pour l'avoir, faut-il avoir le prix. Ça, c'est une autre affaire. L'autre chose, c'est que dans Le Monde, daté d'aujourd'hui, daté du 2 mars, il y a une autre tribune pour l'instauration de quotas dans le financement du cinéma français pour la parité. Qui signe cette tribune? Juliette Binoche, entre autres, qui est nommée pour meilleure actrice. Mais là aussi, elle ne s'exprimera, si elle le veut, que si elle obtient le César. Donc nous sommes dans un contexte particulier, et j'imagine mal des gens venant juste dire merci papa, merci maman. Donc on va surveiller ça. Et bien sûr, l'autre chose, ça va être les récompenses. Vous parliez des nominations.
Et là, pour vous, il y a un film et puis il y a le reste, quoi.
Il y a un film qui pose un problème au sens positif du terme. C'est le film de Robin Campillon, 120 battements par minute. C'est un film hors du commun. Quand vous voyez ça, vous vous dites comment on fait pour rendre avec une caméra, ça parle des débuts du sida quand ça tuait, pour rendre la mort et la vie en même temps. Comment on fait pour qu'on ait l'impression que les images transporte plus qu'un récit. Et ce film, donc, il faut se déterminer par rapport à lui. S'il n'y avait pas ça, je vous dirais qu'Au revoir là-haut, les candidats parfaits, à partir d'un Goncourt, ça parle de la guerre de 14, de ça peut renvoyer aussi à aujourd'hui, 2 millions d'entrées, succès public en même temps. Il y aurait un très beau challenger qui est Barbara d'Amalric. Si c'est être un metteur en scène, c'est ça, faire autre chose qu'une bio classique d'une chanteuse. Oui, mais je pense que le positionnement, c'est mon point de vue, je me trompe peut-être totalement. C'est par rapport à 120 battements par minute, parce que c'est hors du commun. Et j'ai relu 3 fois les nominations. L'acteur qui est extraordinaire, qui est à la fois l'acteur phare du film de Campillo et l'acteur phare d'Au revoir là-haut, Nahuel Pérez Biscayart, n'est pas nommé dans les meilleurs acteurs, ni pour l'un ni pour l'autre, juste meilleur espoir masculin. Bon. S'il ne l'a pas, je deviens basketteur.
J'espère. Réponse à partir de 21h. Et c'est Manu Payet qui anime la soirée. Merci Eva Bétan. Du théâtre également ce soir. Une création à la Comédie de Saint-Étienne, Fort, la première pièce en France de l'américaine Alicia Harris. La pièce dresse le portrait d'un monde en crise, Stéphane Capron, dans un style brut et direct.
Are you mad? Are you riled up? Are you clutching your pearls?
Alicia Harris est une performeuse du spoken words, c'est l'équivalent du slam. Autant dire qu'elle n'a pas sa langue dans sa poche. C'est une découverte du directeur de la Comédie de Saint-Étienne, Arnaud Meunier, qui lui a commandé cette pièce pour les comédiens de son école et ceux de son équivalent à Los Angeles, le Cole Arts. Fort est une saga politico-poétique avec comme toile de fond les peurs qui nourrissent la société d'aujourd'hui. Une pièce ancrée dans l'actualité, c'est ce que souhaitait Arnaud Meunier.
La pièce essaye de fonctionner sur ce à quoi on s'est habitué, c'est-à-dire la militarisation de nos sociétés, l'espèce d'état d'urgence permanent, ça c'est la France, mais aux États-Unis depuis le 11 septembre, ça a été le Patriot Act, cet état de guerre dont on sent qu'il est constamment avec nous et qui profite à certains. On sent bien que les puissants sont de plus en plus riches, et ce repli qu'on sent chez chacun et la montée des populismes désignant l'autre, désignant l'étranger, désignant le faible comme étant le danger, est devenu notre quotidien. Donc la pièce, en fait, à travers une fable, nous pose la question de jusqu'à quand, en fait, on va accepter ça.
Fort est une comédie humaine grinçante et dérangeante. Les personnages à fleur de peau sont désorientés, les mots sont bruts, écorchés, à vif. Ce sont ceux d'une noire américaine déboussolée dans l'Amérique de Donald Trump.
Fort pour une représentation ce soir à la Comédie de Saint-Étienne et à partir de mardi prochain à Paris au Théâtre des Abbesses. Il faut que je vous dise aussi que vous n'avez plus que 10 jours pour faire partie du jury du Livre Inter. Eva Bétan est restée à côté de moi, la basketteuse. 44e édition du prix du Livre Inter, présidée cette année par Leïla Slimani. Et vous avez deux possibilités pour être candidat.
Voilà.
Le site d'Inter, franceinter.fr, je vous avais dit qu'elle était à côté de moi. Et le courrier, Livre Inter, France Inter, 116 avenue du Président Kennedy, 75-220, Paris, CEDEX 16. La date limite, c'est le 13 mars inclus. Et Eva attend vos courriers.
Et on les attend vraiment, n'attendez pas la dernière minute.
Merci Eva. Allez, la route.
Point route avec BNP Paribas, la banque qui assure tous vos trajets, en ligne ou en agence. BNP Paribas, la banque et l'assurance d'un monde qui change.
Il y a du monde pour les retours de vacances, Élise Thibault.
Et oui, plusieurs bouchons se sont formés ce soir à la sortie des stations de ski. Sur la 41 aussi, au niveau de Chambéry, dans la traversée de Grenoble et dans le contournement de Lyon où la 46 est complètement saturée. À savoir, si vous devez quitter ou rejoindre les stations de ski, évitez de le faire demain matin. La neige devrait tomber sur les Alpes du Nord. La circulation s'annonce déjà très compliquée.
Élise Thibault, merci au PC Mobilité de Radio France. Le temps maintenant.
La météo avec Bleu Forêt, fabricant français de collants, chaussettes, soquettes en matière naturelle. Coton, fil d'Écosse, soie, laine, uni ou en dentelle, rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Élodie Calac, ça s'arrange vers les frontières du Nord.
Oui, il reste juste la Moselle et le Bas-Rhin en vigilance orange pour l'heure à venir. Le risque de verglas s'éloigne, mais attention, les sols vont quand même rester glissants. De nouvelles pluies gagnent le sud-ouest ce soir. Alors demain matin, on les retrouvera souvent faibles sur le nord et sur l'est du pays. Peut-être un peu de neige pour la Bourgogne-Franche-Comté. Des Alpes à la Corse, là des pluies plus soutenues, parfois un orage. De la neige en montagne, un fort risque d'avalanche dans les Alpes. Soyez prudents. On trouvera des éclaircies tout de même des Pyrénées vers la Vendée, le Berry et le Languedoc. Et puis il fera encore frais au nord avec des gelées.
Et l'après-midi, ce sera mieux?
Oui, il restera quand même quelques pluies vers la Manche, les frontières du nord, le nord-est, de la neige en montagne. Et puis ailleurs, les éclaircies prendront le dessus, surtout du Pays Basque jusqu'à la Côte d'Azur. Il fera 6 degrés à Metz, 8 à Lille, 11 degrés à Paris, à Rennes, 13 à Lyon, 16 du côté de Toulouse, de Marseille et 17 à Bordeaux et Ajaccio.
Là, Élodie Calac, ce sera très doux. Merci beaucoup.